Jean-Paul Gourovitch. J'ai écouté M. Maudit avec beaucoup d'intérêt la synthèse que vous avez présentée, qui n'est pas facile à faire, sur un temps limité pour aborder l'ensemble de la personnalité d'Hetzel comme éditeur emblématique du 19e siècle. Alors ça m'amène quand même à une remarque et une question. La remarque, c'est que j'étais un petit peu surpris que vous ayez arrêté la liste des recherches en 1986. Il y a quand même eu le numéro d'art et métier du livre et le Technorama, il y a eu la thèse de Nicolas Petit, il y a eu l'ensemble des publications qui ont été faites par le Fonds de Sèvres sur le magasin d'éducation et de récréation, sur la petite bibliothèque blanche, sur les albums Stahl. Excusez-moi, je ne dis pas ça par vexation, mais il y a eu aussi mon ouvrage sur Hetzel, le bon génie des livres. Et je pense que vous avez là des éléments de réponse à une question que vous avez posée sur les convictions républicaines et laïques d'Hetzel. Alors ça m'amène à une question. Vous avez traité très largement des actions d'Hetzel vis-à-vis de ses auteurs. J'ai l'impression que vous avez un petit peu court-circuité l'action d'Hetzel vis-à-vis de ses illustrateurs. Or, cette action, elle est importante dès le départ vis-à-vis de Granville, pour la vie publique et privée des animaux, de Tony Johanneau pour le nouveau magasin des enfants et de Bertal et Tavarny pour lire à Paris. Et ça sera certainement, j'y reviendrai demain, un des éléments fondamentaux pour l'illustration et pour les couvertures des albums stables de la petite bibliothèque blanche. Alors est-ce que c'est parce que vous n'avez pas eu le temps de traiter ce sujet ou parce que vous considérez que l'action vis-à-vis des illustrateurs et le fait d'imposer des cahiers de charges à ces illustrateurs est moins important que la façon dont il a fait travailler ses auteurs.
Merci d'ajouter ces compléments. En effet, dans une communication comme ça, extrêmement rapide, on ne peut pas tout dire. Et je voulais simplement, en m'arrêtant en 1986, donc il y a déjà quand même très longtemps, montrer que précisément dès 1986, Pierre Jules Hetzel était l'éditeur le plus connu sur lequel les matériaux étaient déjà considérables. Bien entendu, la recherche ne s'est pas arrêtée au lendemain de la publication des actes du colloque de Nantes et votre propre livre en témoigne. La thèse de l'école des chartes de Petit, je l'ai utilisée aussi, elle a ses mérites, mais c'est une thèse de l'école des chartes, c'est pas une thèse au sens d'un ouvrage tout à fait complet. En revanche, la question que vous posez par rapport à l'illustration est très importante, en effet. C'est vrai que, pour ma part, j'hésite à en parler parce que je considère que je ne suis pas spécialiste de l'illustration et que donc d'autres en parlent infiniment mieux que moi et vous-même l'avez fait. Elle est importante parce qu'en effet, dans l'esprit d'Hetzel, il y a bien un lien. Elle n'est pas une cerise sur un gâteau. Elle fait partie intégralement de ce qu'est un livre et par conséquent de la réception du contenu qui passe aussi par la visualisation et par l'appropriation que l'enfant ou le lecteur adulte se fait du contenu du livre. Il y a donc bien effectivement un mariage, c'est très sensible chez Jules Hetzel. Peut-être faudrait-il d'ailleurs creuser la question et se demander si, lorsque dans le Hetzel qui publie des livres religieux avec Paulin dans les années 1830, il n'y a pas là un premier apprentissage de ce qu'est le cœur même de l'illustration. Mais voilà, je ne vais pas approfondir ma réponse. J'ai la modestie de considérer que l'historien peut apporter un certain nombre d'éléments dans le domaine qui est le sien, et il n'a pas à se substituer aux chercheurs. Sur Granville, les travaux de Quesnel sont tout à fait fondamentaux. Les travaux de bien d'autres, je les cite évidemment, et je leur laisse la parole, voilà. Non, je ne prétendais pas faire un travail qui aurait... il aurait fallu plus d'une heure pour essayer effectivement de montrer comment, après 86, on s'était orienté dans d'autres directions. Et effectivement, tout ce que vous avez cité est extrêmement important.
Merci. Je m'appelle Bracadis. J'aurais une question à M. Monnier. Vous avez insisté sur le rôle du jeu d'Etzer, encore une lapsus, d'Etzer comme agent littéraire. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Et quand je reviens à l'époque où, à l'époque de l'exil à Bruxelles, où, lorsque Etzer a continué à produire la collection Etzer chez d'autres éditeurs, soit à Paris, soit en Allemagne, etc., je me suis toujours posé comment faut-il définir son rôle à cette époque-là vis-à-vis des autres auteurs. Est-ce qu'il a joué le rôle d'intermédiaire entre les auteurs et Hachette, Jean Cretel, Alphonse Coeur, etc. Ou est-ce que ces éditeurs-là ont pris en commission les productions de la maison Etzel en cachette, pour ainsi dire, parce que Etzel ne pouvait plus produire à Paris?
Vous fournissez à la fois la question et une partie de la réponse. En effet, à Bruxelles, Etzel n'est plus véritablement en mesure d'être un éditeur. Chez Lagodon l'avait très bien dit pour l'édition de Victor Hugo. Il essaie quand même, il essaie de gérer, au fond, ses relations avec un certain nombre d'auteurs. Et il a la possibilité, effectivement, de les mettre en contact avec des éditeurs qui vont effectivement publier leurs œuvres. Et il négocie des collections associées. Par exemple, je me suis contenté de celle-là, la collection Etzel, Michel Lévy Frères. Mais il y en a bien d'autres, vous l'avez dit, en Belgique, en Allemagne, en France, qui lui permettent d'exister, c'est-à-dire de continuer à faire connaître son nom, tout en n'étant pas véritablement l'éditeur. Et il perçoit un pourcentage. Quand on regarde en détail, on voit bien à quel point les problèmes financiers sont majeurs, sont cruciaux. Moi, je me suis amusé, il y a ça plus de 25 ans, à montrer que quand il négocie avec Victor Hugo l'édition des œuvres complètes illustrées, il tend une espèce de carotte magique à Victor Hugo en disant « vous toucherez les deux tiers des droits ». Donc Victor Hugo, au départ, est persuadé que c'est deux tiers de 20 centimes, c'est-à-dire autour de 13 centimes. Or, en réalité, quand on regarde le calcul, les droits seront calculés sur 20 moins 9 centimes, c'est-à-dire sur 11 centimes, parce qu'on enlève la part qui va à l'autre éditeur, et ensuite, sur les 11 centimes, on va enlever tous les frais de fabrication, et ensuite, sur le restant, il y aura deux tiers de droits. Donc, en réalité, eh bien, l'éditeur Etzel a tout simplement roulé l'auteur, ou plus exactement, ne lui a pas dit la vérité, vous aurez des droits très modestes de 3 à 4%. Et Hugo n'aurait sans doute pas signé. Parce que Hugo était également un négociateur qui considérait qu'il avait droit, effectivement, à une gestion de ce qu'il apportait beaucoup plus importante. Donc, c'est un homme qui fait flèche de tout bois chez Lagodon. Il insiste aussi, parfois, elle a l'impression que Etzel frôle la légalité, mais il est comme tous les éditeurs. Il est dans une situation extrêmement difficile, il essaye de trouver les moyens à la fois de faire connaître les auteurs dans lesquels il croit et puis de garder un nom, parce que l'important pour lui c'est de ne pas mourir. S'il avait été seulement agent littéraire, il changeait complètement de casquette, il abandonnait l'édition. Il aurait pu faire d'ailleurs un agent littéraire européen qui aurait peut-être créé une agence, mais Etzel ne voulait pas se contenter d'être un agent littéraire, il voulait demeurer un éditeur, ce qu'il a été jusqu'à la fin de sa vie.
Alors moi j'aurais une question pour Jean-Luc Nollier. Concernerait cette fois les relations d'Etzel avec les autres éditeurs et sa réputation. On remarque que souvent il s'associe avec d'autres éditeurs pour éditer différents auteurs. Et je me suis toujours demandé quelle était sa réputation dans le cercle littéraire à l'époque et auprès de ses différents collègues.
Bon, là la réponse est simple, c'est un éditeur extrêmement respecté. Il est très rare de trouver sous la plume de ses confrères ou de ses concurrents des remarques désagréables. Sous la plume de Michel Lévy, on trouve parfois des sortes de blagues. Quand il l'appelle « vieux belge », ça veut dire que Etzel est un véritable négociateur qui sait exactement où il va. Ce n'est pas du tout injurieux. Non, Louis Hachette éprouve une très grande admiration pour Pierre-Jules Etzel, Michel Lévy également, Charpentier aussi. Il peut y avoir à certains moments des négociations un peu difficiles, mais globalement, c'est l'un des éditeurs les plus respectés. J'hésitais à avancer le plus respecté, le plus ça ne veut pas dire grand-chose, mais un des plus respectés. Parce qu'il n'est pas comme les autres. Au fond, on le voit bien, je l'ai dit, même s'il a bien vécu des droits que lui ont rapportés les éditions de ses œuvres, il n'a pas bâti une fortune équivalente à celle de ses concurrents. Ça veut dire que probablement, il n'a pas cherché à pousser aussi loin qu'il l'aurait pu ses avantages. S'il avait été un homme essentiellement d'argent, il aurait sans doute eu son propre château ou des choses comme ça. Il a une très belle maison à Meudon, elle a été construite par Viollet-le-Duc, mais ça n'a rien à voir avec un hôtel particulier aux Champs-Élysées. C'est pas du même ordre, c'est pas le château de Louis Hachette. Non, c'est certainement un des éditeurs les plus respectés, et internationalement, pas simplement en France. Je pense au jugement de Lacroix et Verbeek-Oven, ou d'éditeurs italiens et allemands. Non, c'est un homme très respecté.
Et Xavier Noël. Donc vous avez évoqué en fait une certaine fragilité de la maison d'édition, hein, qui ne lui a pas permis en fait d'être pérenne. Est-ce que une part de cette fragilité est liée en fait à la question de la transmission du patrimoine dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire qu'il y a évidemment un patrimoine financier, vous l'avez évoqué, mais aussi un patrimoine intellectuel et affectif. Donc beaucoup de choses ont été portées par Pierre-Jules Hetzel. Et en fait, donc, après Louis-Jules Hetzel, avait-il effectivement toutes ces dimensions-là qui lui permettaient d'assurer une longévité? Parce qu'on voit bien, en fait, qu'ils travaillent ensemble déjà depuis longtemps, mais que ça ne suffit pas forcément.
Là, j'aurais envie de dire, il faut éviter de jouer les carabiniers d'Offenbach. Comme l'historien connaît la fin de l'histoire, il a tendance à dire, bah, sans doute, oui, en effet, le fils ne possédait pas les qualités du père puisqu'il a été obligé de vendre l'entreprise. C'est aller un peu vite en besogne et peut-être les choses sont-elles un peu différentes. Moi, j'aurais tendance à penser que Pierre-Jules n'a pas transmis un portefeuille d'auteur suffisant à son fils Louis-Jules et que c'est quand même ce qui va peser le plus. Le portefeuille est naturellement intéressant, mais on y trouve essentiellement Jules Verne, on y trouve Erckmann et Chatrian, on y trouve quelques auteurs, c'est pas un portefeuille suffisant. Alors évidemment, le fils aurait pu le renouveler, il aurait pu lui-même se lancer, et il l'a fait, à la recherche de nouveaux auteurs. Il est resté peut-être un peu trop cloisonné dans le domaine de la littérature pour la jeunesse, à une époque où la concurrence est beaucoup plus féroce, puisqu'il n'y a plus le régime du brevet qui avait limité la concurrence avant 1970. Là, on est dans la loi du marché. Il y a peut-être un autre élément, j'hésite à m'aventurer dans le psychisme de Louis-Jules, c'est un homme qui aime la vie. C'est un homme qui passe de longues périodes de sa vie à Monte-Carlo. Je crois qu'il aime aussi bien le casino. Il joue souvent. C'est pas nécessairement incompatible avec le fait de bâtir une fortune. D'autres éditeurs, y compris outre-Atlantique, ont montré qu'on pouvait jouer au casino et continuer à gérer une entreprise. Donc il n'y a pas de réponse univoque. Mais ce serait un peu, à mon avis, assez injuste. J'ai donné un travail de maîtrise à une étudiante, justement, sur le personnage de Louis-Jules pour qu'on prenne mieux en compte sa dimension. À mon sens, ce serait injuste de considérer que c'est simplement parce qu'il n'était pas aussi capable que son père de développer. Non, je crois que lorsque Pierre-Jules meurt en 1886, la maison n'est plus une des maisons les plus importantes de Paris. C'est une maison relativement limitée. C'est pour ça que j'ai dit que le fait que l'histoire de l'édition française est focalisée sur trois éditeurs pose un problème. Parce que si l'histoire de l'édition est censée faire l'histoire des publishers, essentiellement. Donc, on ne peut pas mettre au même niveau Louis Hachette, qui est vraiment un homme d'affaires, hein, qui laisse une maison d'édition extrêmement solide à ses descendants, avec Pierre Larousse, qui ne laisse pas du tout une maison solide, puisque à sa mort, le grand dictionnaire universel n'est pas achevé. Et d'ailleurs, le notaire diminue, hein, considérablement la valeur du fonds, puisqu'on ne sait pas si le dictionnaire va réussir. Et puis, Hetzel, dont la maison est de taille moyenne. Je crois qu'on est là véritablement. Quand il meurt en 1886, c'est une maison moyenne. Moi, j'ai simplement ajouté dans L'argent et les lettres que je trouvais, enfin, pour l'historien que je suis, tout à fait étonnant que la signature de la vente de la maison Hetzel ait été faite le 31 juillet 1914. Le monde entier va entrer dans une guerre effroyable. Et le 31 juillet, des hommes d'affaires aussi rigoureux que les dirigeants de la maison Hachette signent un contrat qui les engage pour des années. Ben là aussi, ça évite effectivement de croire que le 31 juillet 14, la guerre inéluctablement va arriver. Elle va arriver le 3, ça on en a la certitude, mais entre le 31 juillet et le 3, elle aurait pu ne pas se produire.
Vous dites que Hetzel, dans sa vie, il était un républicain, donc Alors, on sait que Jules Verne, donc, dans certaines de ses œuvres, révèle des tendances anarchistes, alors que dans sa vie, dans la vie quotidienne, c'est un conservateur. Est-ce qu'il existe chez Hetzel la même contradiction, ou est-ce que c'est possible que vous disiez un peu plus sur sa position politique?
Hetzel est un républicain de la veille. Au XIXe siècle, on distingue les républicains qui le sont avant que la révolution ne se produise et les républicains qui le sont lorsque les révolutions sont produites. Vous savez, c'est un peu comme les résistants de la fin du mois d'août 1944. Ils ont été bien plus nombreux que les résistants du mois de juin 1940, ou de 41, ou de 42, ou même de 43. Alors, c'est un républicain authentique, c'est-à-dire que c'est un homme qui est animé de convictions. Il ne se rallie pas à la République. Il considère que c'est le meilleur régime. Il considère que la Révolution française a été une nécessité, qu'elle a aboli effectivement, en principe pour toujours, même si ça n'a pas été le cas, la monarchie, et qu'on ne peut pas revenir là-dessus. En clair, Pierre-Jules Hetzel n'est pas quelqu'un qui se satisferait d'une monarchie orléaniste. Il ne se satisferait pas d'une monarchie constitutionnelle. Il l'a connu puisque, à l'époque de Louis-Philippe Ier, roi des Français, entre 1830 et 1848, la France avait effectivement un monarque constitutionnel. Ce n'est pas du tout, ça ne fait pas partie des idées dans lesquelles croit Pierre-Jules Hetzel. C'est un républicain. Il est pour une république véritable, une république modérée. Ce n'est pas un socialiste. Il ne va pas dans les débats à partir de 1849, 1850 ou 1851, il ne va pas aussi loin, il n'est pas fouriériste, il n'est pas saint-simonien, il ne se réclame d'aucun de ces systèmes, il n'est pas proudhonien, même s'il entretient des liens avec des fouriéristes et évidemment avec Proudhon. C'est un républicain modéré, c'est sans doute un républicain libéral. Il y a son profond respect pour la religion, qui joue un rôle fondamental. Ce n'est pas un anticlérical, ce n'est pas un libre-penseur. En ce sens, il s'oppose à tous les courants les plus radicaux. Voilà ce qu'on peut dire. Moi, pour ma part, aussi longtemps que je n'aurais pas lu le journal qu'il a tenu comme secrétaire général du gouvernement provisoire, j'hésite à aller plus loin dans la perception de son univers. Bon, Jules Verne, c'est tout à fait différent. S'il est vrai qu'il est parfois dans son œuvre animé de tentations anarchistes, vous le savez bien, il vit comme un bourgeois plutôt conservateur, et encore comme l'adverbe plutôt est sans doute à supprimer.
Juste peut-être une remarque par rapport à votre question. Est-ce que vous avez lu la brochure qu'il a sortie en 72, c'est-à-dire un an après la Commune, qui s'appelle « Entre bourgeois, actionnaires de la même société » et citoyens du même pays. C'est une brochure qui est quand même extrêmement intéressante sur l'évolution des idées politiques de Hetzel, parce qu'on voit qu'il n'a pris parti ni pour la Commune, ni pour les Versaillais, et qu'en même temps, il commence à avoir un doute sur la faisabilité d'une république qui réconcilierait des tendances irréconciliables.